Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Luc Delpont. Il est dans l'actualité puisque le livre auquel il a participé, en fait c'est un livre qui est écrit à 8 mains, c'est-à-dire qu'ils sont 4, dont Jean-Luc. Et donc le livre s'intitule « Le confort d'été dans l'habitat ». Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que les étés sont de plus en plus chauds, torrides. On a des périodes de canicule de plus en plus fortes ou de plus en plus fréquentes. Alors c'était un peu moins vrai cette année parce qu'on a quand même eu un printemps assez pluvieux. Mais globalement, on est sur une hausse globale des températures. Et nos habitats ne sont pas forcément bien adaptés pour un bon confort. On a plus pensé l'habitat pour un confort d'hiver et pas forcément pour un confort d'été. Et c'est tout le thème de ce livre et de la présentation qui va y avoir lieu après, avec à la fois dans le livre, je ne sais pas comment sera organisée la présentation, mais quelques définitions sur les matériaux, comment la chaleur se diffuse, passe à travers les matériaux, et puis après des solutions, différentes solutions pour avoir un meilleur confort, et l'idée étant que chacun puisse ensuite aller chercher là ou les solutions qui lui semblent la plus adaptée pour son habitat, que ce soit un habitat, une maison récente en construction ou que ce soit une maison en rénovation. Mais je vais laisser la parole à Jean-Luc qui va vous faire sa présentation. Et on se retrouve après pour une période de questions-réponses.
Merci René. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, merci de vous intéresser au sujet. Commencez par une petite introduction. Alors ça, c'est peut-être ce qui va se passer dans quelques années, ce sera le tourisme de montagne. On viendra admirer les quelques névés, quelques glaciers qui restent. Petite introduction, je vais d'une part me présenter rapidement, présenter notre structure. Moi, je travaille dans un bureau d'études thermiques. Après, j'essaie de vous expliquer ce qui nous a motivés à écrire ce livre. Et puis, on rentrera un petit peu plus dans le détail, effectivement, de la façon dont il est construit et ce que ça peut apporter au lecteur. Alors tout d'abord, le bureau d'études en question s'appelle Eliasol. Donc moi je m'appelle Jean-Luc Delpont, j'ai 54 ans, je suis ingénieur du bâtiment et des travaux publics à la base. Mais je suis dans le cadre de ce bureau d'études ce qu'on appelle un thermicien du bâtiment. Donc nous on est vraiment spécialisé dans les calculs, les études thermiques, le comportement des bâtiments. Alors souvent, effectivement, quand on parle de thermique, on pense thermique d'hiver. Qu'est-ce que je vais consommer comme énergie de chauffage? Est-ce que mon bâtiment va être confortable? Mais il y a quand même beaucoup à dire aussi sur la thermique d'été. Donc qu'est-ce qu'on fait comme genre d'études? On fait d'études et du conseil, effectivement, en thermique. Alors mon collègue Franck Janin, qui a créé le bureau d'études en 2007, il a pris le parti de travailler sur la très haute performance énergétique. Alors en France en 2007 c'était un peu la préhistoire de tout ça, et ensuite lui s'est basé sur une démarche allemande qui s'appelle le Passive House, donc les bâtiments passifs, qui sont des bâtiments extrêmement performants. Et même aujourd'hui, j'allais vous dire, si on compare un bâtiment passif d'aujourd'hui avec le même bâtiment construit sous l'égide de la réglementation thermique française, on a un facteur 4 ou 5 sur les consommations, donc ça reste encore extrêmement performant. Et c'est des bâtiments, c'est une démarche qui a quand même une trentaine d'années, hein. Début des années 90. Donc on est 4 ingénieurs ou techniciens, on est basé autour de Lyon, on n'a pas vraiment de bureau, on travaille ce qu'on appelle en home office. Moi je n'ai jamais de bouchon pour aller bosser le matin, je suis à peu près à 4,50 m de mon bureau, donc c'est plutôt pratique. Et puis on se rencontre évidemment régulièrement parce que c'est bien les outils informatiques, mais on aime bien aussi se rencontrer. On limite normalement nos interventions sur le sud-est principalement. Alors, on a quelques clients en région parisienne, parfois c'est un peu exceptionnel, ou j'en ai un en Bretagne même. Mais on essaye de travailler local parce que déjà il y a largement de quoi faire dans notre belle région. Et donc au niveau des compétences, effectivement, on est spécialisé dans la démarche passive, que ce soit... Alors on a, pas tous les 4, mais au moins 2, on a la double casquette, c'est-à-dire les petits logos que vous voyez en haut, en fait, c'est quand on a ce logo concepteur, c'est qu'on est capable de concevoir un bâtiment passif. On fait partie de ce qu'on appelle les équipes de maîtrise d'œuvre. On construit pour le maître d'ouvrage qui est le client. Puis aussi certifié, agréé par le Passive House Institute en Allemagne pour certifier des projets. Donc je suis un peu de l'autre côté de la barrière, je vérifie ce que fait un concepteur. Bon. on fait aussi ce qu'on appelle des simulations thermiques dynamiques, et on s'en est beaucoup servi, vous allez le voir pour le livre. Ça, c'est un outil très intéressant qui permet de modéliser un bâtiment en trois dimensions et de le faire tourner, on va dire, dans un fichier météo avec plein de paramètres pour voir un peu comment il se comporte. On travaille aussi ce qu'on appelle sur les optimisations de ponts thermiques, c'est les liaisons entre parois, des choses comme ça. Donc c'est des calculs un peu pointus tout ça. On fait du calcul réglementaire, même si ce n'est pas notre préférence, on fait du diagnostic énergétique, on est équipé en caméra thermique pour aller vérifier des points sur des bâtiments existants, on est capable de calculer aussi des problématiques de migration de vapeur d'eau dans les parois, puisque c'est aussi important pour la pérennité du bâtiment, et on fait de la formation aussi assez régulièrement. Voilà, en gros. Alors pourquoi ce livre ? Ce livre, en fait, on l'a décidé, ça fait un peu plus d'un an de mémoire. Au départ, c'était une proposition de mon collègue Franck. On s'est dit, déjà, il y a assez peu de livres, finalement, sur le sujet. Et puis, c'est vrai que bon, tout ce qui est confort d'hiver, finalement, on sait traiter. Enfin, surtout nous qui travaillons en passif, le confort d'hiver, ce n'est pas tellement un problème, si vous voulez. On est capable de faire des bâtiments extrêmement performants. Et en plus, j'allais dire malheureusement pour les skieurs, en tout cas, les hivers sont de plus en plus doux, donc c'est de plus en plus facile, entre guillemets, d'avoir des bâtiments qui consomment peu. Par contre, le confort d'été, lui, il est plus difficile à obtenir, effectivement. Alors, je précise, plus difficile à obtenir sans rafraîchissement actif. Ce qu'on appelle un rafraîchissement actif, c'est l'usage, par exemple, d'une pompe à chaleur pour aller refroidir un bâtiment. Donc ça, effectivement, on sait faire. Mais nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup, et je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Donc nous, ce qui nous intéresse, le challenge, c'est est-ce qu'on est capable de faire un bâtiment qui se comporte bien en été sans rafraîchissement actif, justement. Et c'est plus compliqué. L'approche estivale est plus compliquée que l'approche hivernale parce qu'on a une forte dépendance aux conditions extérieures, beaucoup plus qu'avec l'hiver. On verra un petit peu plus loin pourquoi. Autre raison qui nous a poussé à faire ça, on s'aperçoit en fait en travaillant dans ce métier que la plupart de nos clients, ils ont une vision très très parcellaire de ce qu'ils aimeraient faire sur leur bâtiment. On leur a dit que la pompe à chaleur c'était bien, on leur a dit que le free cooling c'était bien, c'est faire circuler de l'eau fraîche pour rafraîchir, on leur a dit que les protections solaires c'était bien sous certaines conditions, mais ils sont rarement capables d'avoir plusieurs éléments pour voir la totalité du projet. Or nous, notre métier c'est ça, c'est de vous donner le tableau d'ensemble, on va vous donner tous les éléments en essayant de vous dire ça c'est le plus intéressant, ça c'est moins intéressant sur l'efficacité ou par rapport au coût d'investissement. Donc il y avait un besoin, un vrai besoin sur ce sujet-là, d'autant qu'effectivement il y a assez peu d'ouvrages finalement sur le sujet du confort d'été. Donc on s'est dit qu'il y avait quand même un manque, alors que l'enjeu, je ne vais pas vous faire l'article, c'est pas le but de la présentation, vous savez très bien comme moi qu'on va vers des étés de plus en plus chauds, de plus en plus compliqués, avec des changements de temps de plus en plus violents, et il va bien falloir quand même... On parle beaucoup d'adaptation, je ne sais pas si vous avez remarqué. Jusqu'à présent, c'était on va passer sous la barre des 1,5 degré, mais là, je crois qu'on a un peu lâché l'affaire, puisque 2023, on est déjà à 1,5 degré. On verra ce que donne 2024, mais c'est bien parti pour qu'on continue dans ce triste record. Donc, on parle d'adaptation maintenant. Alors, on peut le regretter en se disant, si on parle d'adaptation, c'est qu'on a un peu laissé tomber l'action. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que de toute façon, il faudra qu'on s'adapte. Donc de ce point de vue-là, il y a un enjeu là-dessus. Et puis, dernier point, dernière raison qui nous a poussé à écrire ce livre, on s'est dit que c'était une très bonne expérience pour nous quatre. Alors, on est d'origine un peu différente, et surtout, on a deux jeunes salariés et deux vieux. Moi, je fais partie des vieux. J'ai encore quelques années à tirer, puis après, je vais partir. Et on voulait transmettre aussi cette expérience et profiter d'un échange croisé entre deux générations sur cet aspect-là. Et je pense que ça nous a beaucoup servi. Ça a été beaucoup d'énergie pour faire ce livre. Mais ça nous a beaucoup servi aussi pour nous rapprocher tous les quatre et pour essayer de mettre en équation et de manière claire des choses qui ne sont pas forcément faciles à expliquer au grand public. Alors j'espère qu'on aura atteint notre cible. Ceux qui liront le bouquin pourront nous faire un retour. Ça nous intéresse toujours de savoir si on a réussi ou pas. Alors, quelle approche on a utilisée pour ce livre ? Alors, on a essayé d'être le plus large possible, de toucher le plus grand, le plus large public possible, que ce soit des particuliers ou même des professionnels qui s'intéressent au sujet, puisque nous, on a beaucoup d'échanges avec des professionnels. Et donc, il a fallu qu'on organise la démarche et la réflexion sur la base de cette transversalité, on va dire. Donc, on a un rappel des éléments du confort estival. Qu'est-ce que c'est que le confort ? comment ça marche, sur quel type d'équation. Donc il y a un peu de maths et de physique. Oui, parce qu'il, mais vous, je vais vous montrer, rassurez-vous, ce n'est pas des maths très compliquées. Mais il faut quand même comprendre fondamentalement comment ça se passe. Et donc les grands principes de la thermique d'été sont expliqués. Après, on a décidé d'utiliser donc cet outil de la simulation thermique dynamique, qu'on appelle affectueusement la STD. Donc cet outil est très intéressant parce qu'en fait, il permet, c'est le seul que je connaisse qui permet de prendre en compte tous les facteurs de confort dans un bâtiment, que ce soit le confort d'hiver ou le confort d'été, notamment ce qu'on appelle l'inertie, les effets de ventilation naturelle, des choses comme ça. C'est le seul outil qui soit capable de faire ça, et en plus, sur plusieurs zones différentes. On est capable de vous dire, dans le séjour, vous aurez tel grave de température, dans la chambre, tel grave, etc. Donc c'est un outil très intéressant, qui permet de juger de l'efficacité d'une solution. Et en face, on peut faire une évaluation de coût et de complexité de mise en œuvre. Et puis, on peut les comparer, ces solutions. Donc c'est un peu ce qu'on a voulu faire, et vous verrez un petit peu comment ça se présente. On a fait aussi une approche du confort, parce que le confort, il y a plusieurs façons d'aborder le confort d'été. Il y a dire « je ne veux jamais dépasser, par exemple, ou le plus rarement possible, mettons 27 degrés dans une pièce », parce qu'on sait qu'effectivement, d'expérience au-dessus de 27, c'est un peu compliqué d'avoir une activité normale. Mais on peut aller plus loin et on peut affiner en utilisant ce qu'on appelle les comportements physiologiques de confort adaptatif. Et je vous expliquerai ce que c'est ça. Le confort adaptatif, c'est un confort dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Donc on verra dans quelles conditions on peut tirer parti de ça. On a voulu aussi distinguer les solutions en neuf et en rénovation. Donc le livre s'intéresse aux deux approches. Il y a des approches qui sont communes, il y a des approches qui sont un peu plus propices au neuf et d'autres, voilà. Donc on a essayé de regarder les deux. Effectivement, nous on est très pro-rénovation parce qu'on pense que c'est un vrai enjeu de rénover les bâtiments. Donc on a voulu insister là-dessus. On a dans le livre aussi traité des cas un peu spécifiques. Par exemple, comment se comporte une maison passive? C'est le questionnement de beaucoup de clients. Une maison passive, mais alors c'est un thermos, c'est en surchauffe. Donc il fallait quand même qu'on traite ce sujet-là pour un peu débunkériser cet aspect. On a travaillé aussi sur les maisons anciennes, bien sûr, parce que c'est quand même le gros du parc en France. On a travaillé aussi sur ce qu'on appelle les habitats légers, les tiny houses. Donc on a fait un petit chapitre sur les tiny houses, sur ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, les ICU, qui font qu'en ville, effectivement, on a des températures plus élevées. C'est plus compliqué de gérer en ville. Je pense que les citadins le savent bien. On a travaillé un petit peu sur l'habitat collectif, parce que ben voilà, on peut être en appartement aussi. On n'est pas interdit de réflexion sur le confort d'été parce qu'on est en appartement. Donc on a regardé cet aspect-là. On a aussi regardé un aspect qui a beaucoup monté depuis l'année 2020, évidemment, c'est le télétravail. Bon, on télétravaille à la maison, qu'est-ce qui se passe en termes de confort? Qu'est-ce qu'on apporte? Quel est le handicap? Et puis on a fait aussi un petit florilège des erreurs classiques, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Donc en gros, il se présente comme ça, ce livre, et il se veut assez didactique. On n'est pas du tout obligé de le lire de la page 1 à la page 200 et quelques. On peut piocher un petit peu en fonction de ses envies. Alors le confort, c'est quoi justement? Tiens, on va faire un petit test d'ailleurs. J'aimerais bien faire un sondage. Alors ça, c'est une échelle de comment vous ressentez l'ambiance de cette pièce. Donc si vous êtes bien, ni trop chaud ni trop froid, vous êtes à 0. Si vous avez un peu chaud, plus 1, encore plus chaud, plus 2, encore plus chaud, plus 3, et à l'inverse, si vous avez froid. Est-ce que je peux demander aux gens qui sont neutres de lever la main, et qui se sentent neutres, on va dire, oh, c'est pas mal. Donc c'est pas trop mal géré, la climatique dans cette salle. Alors, ceux qui ont froid, un petit peu froid, il y en a qui ont un petit peu froid. Ouais, 3, 4, 5, 6 personnes, ouais. Encore plus froid, alors là, c'est les moins 1, ça. Il y a des moins 2 ou pas? Pas de moins 2, pas de moins 3, des plus 1. Ah ouais, quand même, on a plus de plus 1 que de moins 1, apparemment. Bonne dizaine. Des plus 2 ou des plus 3? Ah, j'ai une hésitation. Peut-être un plus 2. Bon, l'idée, c'était quoi? En fait, c'était de vous montrer que personne n'est fait pareil. On est dans la même pièce, on est tous assis, sauf moi, on est tous assis sur un siège. Alors déjà, on n'a pas forcément les mêmes vêtements. Je vois des gens qui enlèvent leur veste, là. Finalement, on va repasser en moins 1 plutôt qu'être en plus 1. Voilà. Donc déjà, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le confort, c'est un ressenti personnel. Donc, c'est une appréciation effectivement très personnelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la quantifier statistiquement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet, qui ont mis en place des équations assez complexes. J'ai pas osé vous les mettre hein, pour pas vous, vous faire peur, mais qui ont mis en place des équations complexes pour comment dire évaluer un nombre de personnes. Il y a ce qu'on appelle la force statistique, bon, enfin un certain nombre de personnes, et on leur demande de voter comme ça. Alors ce que vous venez de faire là, ça s'appelle le PMV en anglais, c'est le Predicted Mean Vote, donc le vote moyen prévisible. On demande aux personnes comment elles se sentent et elles répondent. Bon. Donc ça, c'est notre PMV. Et à partir de ce PMV, donc, qui est dans l'axe des X, là, vous voyez, on est sur le 0, alors on ne va pas jusqu'au plus 3, mais ça va jusqu'au plus 2 et au moins 2. On peut aussi tirer une deuxième statistique, c'est ce qu'on appelle le pourcentage de personnes qui seront insatisfaites du confort de la pièce dans laquelle elles se trouvent. Ce qu'on appelle le percentage of persons dissatisfied, donc le PPD. Et en croisant les deux, en fait, on s'aperçoit d'une chose intéressante, c'est que même si on fait les maximums d'efforts pour que la plupart des gens soient là, on va toujours avoir quelques pourcents de personnes qui seront inconfortables, quoi qu'on fasse. Donc on va être un peu en démocratie, on va essayer de satisfaire la majorité des personnes, mais on sait que c'est pas possible de rendre toutes les personnes totalement adeptes d'une pièce en disant « ouais, c'est parfait, je me sens ni chaud ni froid, tout va bien ». Donc c'est déjà une première chose. Et donc les logiciels de calcul qu'on utilise, et notamment les simulations thermiques, sont capables de calculer ces éléments-là. Donc, quels sont les paramètres qui sous-tendent le confort d'une personne? Il y en a plusieurs. Hein. Il y a la température de l'air, bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on appelle la température des parois. Quand vous avez un mur comme ça et qu'il fait très froid dehors, ben, le mur peut être un peu froid et faire ce qu'on appelle du rayonnement. Hein. En fait, c'est plutôt vous, d'ailleurs, qui allez rayonner vers lui. Les éléments chauds rayonnent en infrarouge vers les éléments froids. Et ça, c'est un ressenti de froid. Donc, si vous avez une paroi qui est relativement froide, notamment une fenêtre, par exemple, une fenêtre ancienne, qui serait très, très paroi froide, justement, on appelle ça la paroi froide, bah vous allez ressentir ça négativement, vous serez en inconfort. Donc la température des parois, l'humidité de l'air aussi, ce qu'on appelle l'humidité relative de l'air, le déplacement d'air peut générer aussi des différences de confort en fonction de la vitesse de l'air. Et il y a un lien d'ailleurs entre l'humidité et la vitesse d'air. Ce qu'on appelle le métabolisme, bah, c'est tout simplement nous, on est une usine chimique, hein, on a tout un métabolisme qui nous maintient à une température de l'ordre, enfin pas loin de 37-38 degrés, on est ce qu'on appelle homéotherme. Donc ce métabolisme, il varie au cours de la journée. Hein, quand vous digérez un repas, par exemple, vous allez consommer beaucoup d'énergie pour digérer ce repas et vous aurez une sensation de froid qui viendra plus facilement que dans d'autres, à d'autres moments de la journée. Et le métabolisme s'inscrit aussi dans le temps long, dans le sens où une personne qui est plus âgée a généralement un métabolisme plus ralenti et donc aura certainement des sensations de froid plus exacerbées qu'une personne plus jeune. Une femme et un homme aussi, il y a des différences bien sûr. L'aspect psychologique, suivant la façon dont vous êtes, comment vous vous ressentez, si vous êtes déprimé, si vous êtes enjoué, si vous êtes fatigué, tout ça, ça va jouer sur votre confort aussi. Et ce qui joue aussi, c'est la météo des jours précédents. Je ne sais pas si vous avez pu le constater. Moi, je l'ai constaté en faisant un voyage en Suède. En Suède, il fait très froid, l'air est extrêmement sec. On a très très mal dormi pendant presque une semaine. Et au bout d'une semaine, on était adapté. On n'avait plus ce problème. Et quand on est rentré en France, on s'est dit, mais c'est super humide comme pays. Donc voilà, il faut plusieurs jours parfois pour que le corps s'adapte. Et puis évidemment, l'habillement joue aussi. Donc tous ces éléments, ça fait des équations assez complexes, effectivement, parce que le corps échange en permanence avec son environnement. Donc il va par exemple recevoir des apports de chaleur par le soleil au travers des fenêtres. Lui-même va rayonner en infrarouge parce qu'on est généralement plus chaud que notre environnement et va déperdre de la chaleur. La respiration va faire des échanges thermiques, le métabolisme, l'air qui vient contre vos jambes, ce qu'on appelle la convection, les mouvements de convection va aussi jouer son rôle. On peut, je ne sais pas si je suis pieds nus sur un carrelage, bon, je sens bien le froid et puis il y a de la conduction thermique qui va se passer là. Donc c'est tout un tas d'échanges qui rendent effectivement la quantification en tout cas assez complexe. Et notamment, il y a cette fameuse température opérative. En fait, la température opérative dont on se sert beaucoup dans les logiciels de calcul, c'est une sorte de moyenne entre la température de l'air et la température des parois. Donc on peut très bien, par exemple, avoir un bâtiment mal isolé, qui va donc avoir des parois assez froides, température de parois basse. Et le réflexe, ça va être justement de surchauffer un peu l'air intérieur pour compenser ce froid. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes dans un bâtiment, par exemple, passif, extrêmement bien isolé, on n'aura pas du tout d'effet de paroi froide, la température des parois sera assez élevée, et on serait même capable d'avoir une température d'air plus basse tout en étant très confort. C'est même mieux d'ailleurs d'être dans ce sens-là que dans le sens des parois froides. Donc ça, c'est valable quand il n'y a pas de mouvement d'air, puisque le mouvement d'air va un peu fausser le truc. Alors, On utilise donc, je vous ai parlé du confort adaptatif, donc c'est la capacité du corps qu'il a à moduler sa tolérance à la température en fonction, alors principalement de deux choses, la température des jours précédents, donc je vous en avais parlé, et la vitesse et l'humidité de l'air. Alors c'est une approche de confort qui nous semblait plus réaliste que simplement dire je veux un seuil à 27 degrés. Pourquoi ? Un petit exemple sur ce graphique, si le taux d'inconfort est à 27 degrés, eh ben, ça veut dire que si on utilise l'approche par seuil fixe, en dessous de ces 27, on est confort, au-dessus, on est inconfort. Or, si on regarde le confort adaptatif, ça ne se passe pas de la même façon. Le confort adaptatif, en fonction de la température extérieure, il va évoluer. Donc avec une température, par exemple, extérieure plus élevée, ben, vous serez dans des zones de confort ici. Alors que si on avait simplement regardé ce critère-là, on aurait dit « Ah ben non, je suis inconfort là ». Donc le corps s'adapte. Donc c'est plus intéressant de travailler en confort adaptatif parce que c'est plus proche de la réalité du fonctionnement de nos organismes. C'est pour ça qu'on a choisi cette option. Donc si on voulait symboliser un petit peu ça, on pourrait se dire ben, en fonction de l'humidité de l'air, qui va être plus ou moins importante, en fonction de la température résultante ou opérative, c'est pareil, hein, de la température opérative et en fonction de la vitesse de l'air, on va déterminer ce qu'on appelle une zone de confort. Par exemple ici, avec une vitesse d'air qui est nulle, pas de déplacement d'air, ben on sera sans doute bien entre 20 et 26, 27 degrés. Et puis il ne faudra généralement pas trop dépasser non plus des atmosphères trop humides. Si on met en place des mouvements d'air, typiquement avec les fameux brasseurs d'air qui commencent à avoir le vent en poupe un petit peu en ce moment, on en vend pas mal, il y a une raison, hein. Donc ces appareils-là, qui sont souvent plafonniers, hein, vous avez pu en voir, je pense, dans certains bâtiments, bah, ces appareils-là, justement, génèrent un déplacement d'air qui va augmenter votre tolérance en fait, à la température. Avec une vitesse d'air de 0,5 mètres par seconde, on est capable, par exemple, de monter jusqu'à 20, à peu près 29 degrés, tout en étant bien. Et puis si on augmente encore, alors après, évidemment, il faut mettre des papiers, des cailloux sur les papiers pour pas qu'ils s'envolent, mais généralement, nous, on s'arrête dans ces eaux-là, mais on pourrait augmenter encore la zone de confort. Donc le lien, il est quand même assez fort hein, avec les déplacements d'air. Alors qu'est-ce que c'est que la thermique d'été maintenant ? Là, on a parlé du confort, donc là, je vais vous asséner, j'exagère, un peu de maths et de physique, mais vous verrez, c'est des maths et physique assez simples. Je suis obligé de vous dire comment on fonctionne en tant que thermicien pour vous expliquer ce qui a amené à faire ces solutions. Quand on est thermicien, on est un peu un comptable, en fait. On va comptabiliser des flux. Des flux, c'est des transferts de calories, de chaleur, d'un endroit à un autre. Alors le plus souvent, évidemment, en hiver, ça va être le flux thermique part de l'intérieur de la maison qui est à 20 degrés vers l'extérieur qui est à 0 degrés. Mais en été, ça va s'inverser. En été, s'il fait 35 dehors et 25 à l'intérieur, le flux va s'inverser, va rentrer dans la maison. Et des flux, il y en a plein qui sont assez différents. Il y a tout ce qui traverse les murs, ce qui traverse les fenêtres, ce qui traverse le plancher, la toiture. Donc tout ça, il y a ce qu'on appelle aussi les ponts thermiques, hein, qui sont les liaisons avec les parois. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des flux conductifs. Par conduction, en fait, vous avez un transfert de calories qui se fait. Après, vous avez d'autres types de flux qui sont les flux aéroliques. Aéroliques pour air. Vous avez effectivement un bâtiment se ventile, hein, il y a une ventilation mécanique, donc vous avez un transfert d'air qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça, c'est la ventilation voulue, on va dire. Et puis vous avez de la ventilation sauvage, entre guillemets, ce sont les fuites, ce qu'on appelle les infiltrations d'air. Tout ça, c'est des flux. Après, vous avez aussi des flux particuliers que sont les apports solaires, hein, le soleil qui traverse la fenêtre, c'est du rayonnement solaire, ça rentre. Et puis vous avez ce qu'on appelle les apports internes. Une personne, vous et moi, un adulte, c'est à peu près 80 watts de chaleur en activité sédentaire, on va dire. C'est beaucoup plus quand on fait du sport, bien sûr. Et puis vous avez toutes les machines, les éclairages, le vidéoprojecteur, etc., qui vous amènent des flux. Donc on fait une comptabilité de tout ça. Et en fait, on va faire un peu comme les comptables. On aura la colonne de gauche pour les pertes en hiver, et puis la colonne de droite pour les gains. Donc les gains, il y aura les apports solaires, les personnes, etc. Avec la subtilité qu'en été, évidemment, les pertes deviennent plutôt des gains, mais ce n'est pas des gains voulus, c'est tout ce qui va rentrer. Et donc, il va falloir s'en protéger. Donc voilà le principe. Hein. En journée d'été, c'est ce qui rend l'été, le confort estival plus compliqué à évaluer, c'est qu'on a des inversions jour-nuit. En journée, on peut avoir ça, par exemple. 38 degrés extérieur, 24 degrés intérieur. Ah ben là, le flux, il est rentrant. Les flux vont rentrer vers l'intérieur de la maison. Mais si vous avez une nuit fraîche, 16 degrés, ben, le flux s'inverse. Donc il y a des effets de régime, ce qu'on appelle transitoire, entre ce qui rentre et ce qui sort. Et c'est ça qui rend la chose un peu plus complexe. Donc nous, les flux, on les écrit comme ça. Vous voyez, ce n'est pas des maths compliquées, c'est des multiplications. Par exemple, ce qui traverse une paroi, ça va dépendre du degré d'isolation de la paroi, ce qu'on appelle la conductance. Bon, c'est calculé en fonction des isolants qui sont dans la paroi, etc. Ça va dépendre de la surface de la paroi aussi. Plus elle est grande et plus le flux va être important. Ça va dépendre de la différence de température, donc ce fameux delta T entre intérieur et extérieur. Et ça peut dépendre aussi du fait que vous ayez, par exemple, une paroi qui ne donne pas sur l'extérieur, mais sur un garage ou un cellier, ce qu'on appelle les espaces tampons. Donc ça, c'est vrai pour les parois, c'est vrai pour les ponts thermiques, c'est vrai aussi pour les fenêtres, parce qu'il y a des phénomènes conductifs au niveau des fenêtres. Et ça, on va essayer, en été, de les diminuer, ces flux, parce que ça, c'est des flux qui vont réchauffer la maison. Donc comment on peut diminuer une équation où il n'y a que des multiplications? Ben, c'est simple, il faut diminuer un des termes, voire plusieurs des termes. Si je diminue ça, par exemple, ben, mathématiquement, si je divise mon degré, ma conductance de paroi par 2, je vais diviser mon flux par 2. Donc ça revient, tous ces éléments-là, c'est pareil, le psi, c'est la valeur du pont thermique, ça c'est la fenêtre. Ça, c'est améliorer l'isolation. En améliorant l'isolation d'un bâtiment, de votre maison, vous allez réduire ces facteurs-là. Ici, c'est des questions de surface ou de linéaire. Là, c'est plutôt une notion de compacité. Si vous faites, alors c'est plus accessible pour du neuf que pour de la rénovation, quoique, mais si vous faites un bâtiment plus petit et plus compact, vous allez réduire ce terme-là et donc réduire les flux aussi en été, en hiver et en été. Alors, on peut difficilement réduire ça, parce que ça dépend des températures extérieures et intérieures, mais quand même, vient le fameux terme adaptation. Ah bah oui, on peut peut-être s'adapter à supporter des 28, des 29, plutôt que des 27 ou des 25. Donc ça, c'est plutôt un terme d'adaptation. Et puis là, c'est mettre en place ces fameux espaces tampons. Typiquement, un comble ventilé, hein, si vous avez votre toiture et un comble non aménagé au-dessus, un comble est un espace tampon. Il va vous protéger de l'onde de chaleur en été aussi. Il sera plus efficace, par exemple, que ce qu'on appelle des rampants, avec les isolants qui sont dans la toiture. On va aussi essayer de réduire les fameux flux aéroliques, ceux qui viennent avec le renouvellement d'air. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Le flux, c'est un peu différent ici, mais c'est toujours des multiplications. Ça va dépendre de la nature physique de l'air, ce qu'on appelle la chaleur spécifique, ça on ne peut pas le changer, du débit d'air qui va traverser, et toujours de la différence de température. Et pour la ventilation dite mécanique, on met en place ce qu'on appelle une VMC. Si vous avez une VMC qu'on appelle double flux, ben on a un échangeur de chaleur et là on peut jouer aussi. Donc comment on réduit ces flux? Pour ce qui concerne l'étanchéité à l'air, on va essayer de faire des bâtiments plus étanches. Exemple, bâtiment passif. Un bâtiment passif est 4 fois plus étanche, une maison, et 4 fois plus étanche qu'une maison RE 2020. Donc on a un niveau qui est bien supérieur. Pour ce qui concerne la ventilation voulue, mécanique, on va essayer de ventiler, mais juste ce dont on a besoin. On ne va pas faire plus que ça. On va mettre généralement 30 mètres cubeurs par personne, ça suffit pour la qualité d'air, on ne va pas aller au-dessus. Ensuite, le delta T, c'est toujours pareil, c'est une question d'adaptation. Et puis, pour réduire encore les flux, que ce soit en hiver ou en été, hein, ça marche dans les deux sens, on peut aussi avoir une ventilation double flux qui a un certain rendement. Et là, le rendement va permettre de réduire les apports de chaleur. On va ralentir en fait les apports de chaleur. Par contre, il y a un flux qu'on va essayer d'augmenter, celui-là, c'est la ventilation naturelle nocturne. Celle-là, elle nous intéresse parce qu'on va voir plus loin que c'est elle qui permet de déstocker nos calories qu'on aura stockées dans la maison. Donc là, on va essayer d'augmenter au contraire le débit en ouvrant les fenêtres, en ayant beaucoup de fenêtres ouvertes, la section c'est la surface d'entrée, en ayant ce qu'on appelle des effets de ventilation traversante, de façade à façade, ça génère aussi, ça motive un petit peu le débit, ça le stimule. Des effets de cheminée, c'est-à-dire que si on a deux étages, si on a une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée et une à l'étage, on va faciliter aussi ce déplacement d'air. Donc là, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de débit possible, au contraire. Et l'histoire du delta T, alors il y a juste un contrôle important, c'est évidemment il ne faut pas ouvrir vos fenêtres tant qu'il fait chaud dehors. Le réflexe, c'est de se dire « Ah, le soleil tombe, c'est bon, on va pouvoir ouvrir les fenêtres ». Ben non, l'idéal, c'est d'avoir deux thermomètres, un extérieur et un intérieur, et surveiller à quel moment il y a une bascule, à quel moment la température extérieure passe en dessous de votre température intérieure. C'est là que le moteur devient intéressant, sinon vous allez continuer à chauffer. Donc il y a un minimum de surveillance à faire du côté de l'utilisateur, de l'occupant. On va évidemment aussi essayer de réduire le flux d'apport solaire en été. Autant en hiver, on voudrait qu'on en ait plein, Et d'ailleurs, les maisons passives se chauffent avec le soleil. En été, c'est l'inverse, on n'en veut pas trop. Donc là, il va falloir protéger ses fenêtres. Donc mettre des protections, ce qu'on appelle des protections solaires, hein, c'est des volets, c'est des brise-soleil, des volets roulants, des choses comme ça. On les veut généralement pour que ce soit efficace mobile, c'est-à-dire qu'on peut les lever ou les baisser, parce que ça permet de gérer l'hiver, l'été, les mi-saisons. Et on les veut extérieurs aussi, ça c'est important. C'est une protection solaire est à peu près 4 fois plus efficace facilement qu'une protection intérieure, tout simplement parce qu'elle va empêcher le soleil d'entrer dès le départ. On n'est pas en train d'essayer de refléter, de ressortir de la chaleur, on ne l'a pas rentré. Donc la protection solaire extérieure, c'est vraiment important. D'autres possibilités, des casquettes, des avancées de toit, par exemple, comme sur cette photo, des pergolas, vous en voyez une ici, pergola avec une vigne montante qui va perdre ses feuilles en hiver, évidemment, pour laisser passer le soleil, mais qui aura des feuilles en été, des voiles d'ombrage, peut aussi assez efficace, des haies, des arbres, tout ce qui est végétalisation peut servir. Donc, je précise, effectivement, on va essayer de faire ça intelligemment, on va garder de bons apports solaires en hiver, mais on va essayer de s'en protéger en été. Donc, c'est une réduction du flux solaire, ça. Et puis, réduire aussi les apports internes, on n'y pense pas forcément, mais tout ce qui concerne, il faut savoir qu'en termes de physique, tout ce qui génère, tout ce qui fonctionne à l'électricité dans une maison finit en chaleur. Il y a toujours de la perte sous forme de chaleur. Et cette chaleur, elle reste à l'intérieur. Et elle va aggraver vos phénomènes de surchauffe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire attention aux veilles des appareils. Les éteindre, les mettre en veille ou les éteindre complètement si vous n'en avez pas l'usage. Faire de la cuisine d'été. La cuisine est une grosse pourvoyeuse de calories. On peut très bien faire sa cuisine à l'extérieur, faire moins de plats chauds, avoir éventuellement des fours solaires comme cette petite parabole, des choses comme ça. Privilégier plutôt l'éclairage naturel et pas l'éclairage artificiel parce que ça aussi, ça émet de la chaleur. Donc attention à ça. Et un autre exemple, ECS, ça veut dire eau chaude sanitaire, c'est les ballons d'eau chaude. Un ballon d'eau chaude qui est mal isolé, comme il stocke de l'eau à 60 degrés généralement, voire des fois plus, en solaire ça monte à 85 degrés, bah, imaginez le rayonnement du ballon si le ballon est à l'intérieur. Donc attention aussi à ça. Ou alors il faut le sortir du volume chauffé éventuellement. Donc il y a plein de petites astuces comme ça, où vraiment là c'est l'usager qui est mis à contribution. Alors, là où les choses se compliquent un peu en été, c'est qu'il y a un phénomène très particulier qui s'appelle l'inertie. Alors, comment ça marche? D'une part, on s'intéresse, dans un premier temps, le flux de chaleur arrive en journée. Il va rencontrer des parois. Ces parois, elles ont un certain degré d'isolation, ce qu'on appelle la résistance thermique. Hein, c'est le grand air qu'on voit. Donc, évidemment, la paroi va déjà, en fonction de son degré d'isolation, ralentir. C'est un peu la douane hein, qui freine la rentrée de la chaleur. Mais au bout d'un moment, il y a quand même une petite partie qui va rentrer. Et c'est là qu'on s'intéresse à la capacité de stockage. C'est la petite bassine ici. C'est ce qu'on appelle l'inertie massique. L'inertie massique, c'est quoi? C'est les calories qui vont rentrer dans la maison, je vais les stocker dans une masse. Donc tout ce qui est très massique, qui est du poids, ça marche. Le béton, la pierre, tous ces éléments-là, le carrelage, la chape, tous ces éléments-là sont des éléments intéressants. Donc en fait, ça veut dire clairement que nous, on s'intéresse en tant que thermicien à l'inertie, mais l'inertie en termes de définition très très large. Si vous cherchez la définition de l'inertie dans un dictionnaire, vous pourrez trouver des termes comme résistance au changement, par exemple. Ben, c'est ça finalement un bâtiment. Un bâtiment, c'est une sorte de coquille protectrice qui va essayer de résister aux changements très violents, et de plus en plus violents malheureusement, qu'on va avoir à l'extérieur. Donc il faut une certaine résilience de ce bâtiment. Il va stabiliser les choses. Et il ne peut stabiliser ces choses que si on tire parti de ces deux phénomènes. Donc on parle d'inertie, enfin moi je parle personnellement d'inertie thermique ici, c'est on ralentit l'entrée de l'onde de chaleur, et ici d'inertie massique, on va stocker ce qui est rentré en trop. C'est ça le principe. Alors, c'est quoi cette petite courbe? Je vous demande un petit effort d'imagination. Imaginez, vous prenez votre maison, que vous avez maintenue à 22 degrés, parce que vous avez bien fait les choses en été, vous la prenez et vous la mettez dans une grosse boîte chaude qui elle est à 30 degrés. Et vous regardez ce qui se passe. Vous mettez un capteur de température dans votre maison, d'accord? Il va se passer un truc un peu comme ça. Vous allez commencer à 22 degrés, et puis petit à petit, il va se passer un truc un peu comme ça. La maison va s'échauffer, va monter en température, au début assez vite, et puis la courbe va s'infléchir, et de plus en plus lentement. Et puis si on attendait très très longtemps, au bout d'un moment, ben, on arriverait à une maison qui sera évidemment à 30 degrés au bout de quelques jours. Ce phénomène-là, il est lié aux deux éléments que je vous ai cités plus haut. Il est lié à la résistance thermique globale de votre enveloppe thermique et c'est lié à l'inertie aussi massique de votre enveloppe thermique. Sachant que l'inertie, la masse, on la cherche évidemment à l'intérieur pour stocker. Et en fait, cette courbe-là, au niveau physique, elle est corrélée avec ce qu'on appelle la constante de temps, c'est la multiplication des deux, tout simplement, c'est la résistance thermique et la résistance massique qui représentent la résistance au changement d'une manière générale. Et plus votre constante de temps va être élevée et plus lente va être la dérive du bâtiment. Alors techniquement, la constante de temps dans cet exemple, elle est de 120 heures et elle arrive quand on a atteint à peu près 2/3 de la différence de température entre le 22 et le 30. Ça, c'est purement technique, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs types de courbes. Pour un même bâtiment, par exemple, qui serait isolé pareil, mais qui aurait moins d'inertie, eh ben, il va s'élever plus vite que s'il avait eu une inertie plus forte. Donc on aura éventuellement sur cet exemple, les deux bâtiments ont la même résistance thermique globale, mais il y en a un qui a beaucoup plus de capacité de stockage. Et celui-là va résister plus longtemps. Donc c'est vraiment cette constante de temps, nous, elle nous intéresse, parce que c'est vraiment très caractéristique d'une enveloppe. Et ça, on peut effectivement le voir avec nos outils. Alors on peut aussi améliorer le confort. Là, on parlait de température, mais comme je vous le disais, le confort adaptatif, c'est aussi s'adapter au niveau de la température. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Quelles solutions on peut proposer? Des augmentations de vitesse d'air, typiquement le brasseur, très efficace. Éventuellement de la déshumidification, mais ça c'est plutôt réservé aux milieux vraiment très humides. On travaille rarement dessus dans nos milieux tempérés, mais si on part dans des pays dits tropicaux, hein, en Guyane française par exemple, c'est une autre musique, parce que là effectivement on a une problématique d'humidité. Donc on peut travailler là-dessus pour le confort adaptatif. Comment on peut agir de manière générale? Alors nous, au niveau du livre, on a développé en fait une étude comparative assez complète. On a fait des centaines de simulations différentes en simulation thermique, en se basant sur une espèce de fil rouge. C'est notre modèle, notre maison type. C'est un peu la maison de Monsieur Tout-le-Monde. On a essayé de se dire, voilà, on veut prendre une maison un peu années 80, avec son petit garage attenant, là. Pas forcément beaucoup de fenêtres, parce qu'à l'époque, on ne s'intéressait pas trop à la solarisation des bâtiments. Mais voilà, une maison qui soit un peu représentative de Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a créé ce modèle et on l'a fait tourner avec plusieurs conditions. Et on a figuré les solutions, les différentes solutions que vous trouverez dans le livre. En fait, elles sont illustrées par cette espèce de petite maison qui, sur quatre zones de la maison, donc quatre pièces, on va dire, deux pièces au rez-de-chaussée et deux pièces à l'étage, vous indique le gain en confort adaptatif. Donc si on a une maison qui tend vers le vert, bah, c'est plutôt des solutions efficaces. Voilà, c'était quoi? Maison passive rénovée avec une rénovation par l'extérieur. Là, c'est du rafraîchissement. Alors, adiabatique, c'est des systèmes avec des pulvérisations de gouttelettes. Bon, c'est des exemples, hein. Il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est par exemple des solutions assez efficaces. Ça, fenêtre performante, ce serait de passer par exemple de double à triple vitrage. Bah, c'est très bien en hiver, c'est bien pour le confort, mais finalement, en été, on ne gagne pas grand-chose. Le gain n'est pas énorme. Et là, c'est un ombrage proche au sud, fait gagner un petit peu. Voilà. Et donc, tout le système du livre est basé comme ça. Vous avez plein de solutions et on les compare. Alors ça nécessite bien sûr de faire un calcul. Alors, si on ne veut pas faire de calcul, on peut faire aussi... Tiens, c'est marrant, j'ai un truc qui a sauté. J'avais barré 5 pour mettre 6, parce qu'en fait on a 5 commandements, mais j'en ai rajouté un 6e à la fin. Donc c'est un peu notre table de la loi, ça. Quand on ne peut pas calculer, par expérience, on sait qu'il y a 5 points très importants qui vont faire que le système va fonctionner ou pas. Le premier des commandements, on va dire, c'est comme les commandements de Moïse, c'est « du soleil, tu te protégeras ». Effectivement, oui, voilà. Il faut absolument réduire le flux solaire en été. Donc ça veut dire des protections solaires, des brise-soleil, des casquettes, tout ce que vous voulez, tout est bon pour la lutte contre ça, pour arriver à réduire ces apports solaires, puisque c'est des apports qui sont très importants. Sur un mètre carré de vitrage, il y a 1000 watts de chaleur thermique qui peuvent tomber dessus en été, donc c'est énorme. Donc il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Donc déjà, première chose, c'est ça. Alors, ce n'est pas forcément priorisé, parce que ça va dépendre de votre projet. Hein. Ce n'est pas parce que c'est le numéro 1 que c'est le plus important, mais tous sont importants et sont complémentaires. Donc le premier commandement. Le deuxième, c'est une enveloppe thermique performante, tu concevras. Et là, on revient sur le fameux grand R, la résistance thermique, hein, l'enveloppe qui va ralentir le flux de chaleur avant qu'elle rentre dans la maison. Donc ça, c'est cette étape importante. Donc une maison bien isolée, c'est pas du tout un handicap. Hein. Ceux qui pensaient qu'une maison passive, c'est une bouilloire, ben non, pas du tout. Ça se comporte très très bien en été, une maison passive. Je suis bien placé pour le savoir. Peu de chaleur tu émettras, ça c'est les fameux apports internes. Aller faire de la cuisine solaire, par exemple à l'extérieur. Bien calorifuger son ballon d'eau chaude pour éviter qu'il vienne chauffer le local à des températures pas raisonnables, des choses comme ça. Donc c'est faire attention à son comportement à l'intérieur du bâtiment. De l'inertie massique, tu prévoiras, le fameux grand C, la capacité de stockage et de déstockage. Donc de la masse, hein, là c'est un refend en pisé par exemple, le béton, les dalles, tout ça. Dès qu'on a de la masse, généralement, ça se passe plutôt bien. Alors attention quand même, si vous avez de la masse mais que vous l'habillez avec un doublage et un isolant, bah, vous allez ralentir le flux de chaleur qui veut rentrer dedans. Donc il y a aussi l'aspect fini du matériau qui est important, ne pas freiner ce stockage. Donc l'inertie massique, ventiler la nuit, tu devras, très important. Effectivement, c'est bien de stocker des calories qui arrivent ou dont on ne sait pas quoi faire, mais il faut les déstocker à un moment donné, sinon vous saturez les masses. Donc à un moment donné, il faut pouvoir ressortir ces calories, et la seule façon efficace qu'on a de les ressortir, c'est la ventilation naturelle, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres avec des effets traversants, cheminées, etc. Aucune ventilation dite mécanique n'aura suffisamment de débit pour faire ça. C'est plusieurs volumes de la maison par heure, ça, pour être efficace. Donc c'est super important quand vous faites de la conception d'avoir des ouvrants un peu partout et de travailler sur cette transversalité, ce transfert d'air. Donc ça c'est mes 5 commandements, et généralement si vous avez respecté ces 5 commandements, il y a de bonnes chances quand même que ça se passe plutôt pas mal pour l'été. Alors j'ai rajouté le 6e, en fait le 6e il est un peu le pendant de la philosophie première du livre, on essaye de ne pas faire de rafraîchissement actif. Donc de pompe à chaleur, typiquement. D'abord parce que ça peut être très moche. Bon, ça c'est une image, je crois que ça vient de Chine. Hein. C'est une façade en Chine, mais on pourrait en trouver ailleurs. Hein. Y a plusieurs raisons qui font que le rafraîchissement actif n'est pas forcément la bonne solution. La première déjà, c'est qu'une pompe à chaleur, enfin je ne sais pas ceux qui sont intéressés, c'est rien de magique. Hein. C'est une machine qui va transférer des calories d'un endroit à un autre. D'une source froide à une source chaude. Bon. En été, par exemple, elle va prendre des calories dans votre maison, pour la rafraîchir, elle va les jeter dehors. Dehors, ou éventuellement, si vous avez la chance d'avoir une pompe à chaleur géothermique dans le sol. Bon, pourquoi pas. Mais très souvent, c'est quand même dans l'air extérieur. Et qu'est-ce qui se passe dans l'air extérieur? Ben, vous avez des voisins, quand même, surtout en ville. Donc, vous réchauffez l'air des voisins, c'est sympa. Donc, ils vont aussi s'équiper en pompe à chaleur. Donc, c'est un peu comme l'escalade nucléaire, mais là, c'est l'escalade des pompes à chaleur. Et plus vous allez avoir de pompes à chaleur, plus vous allez dégrader leur fonctionnement en faisant ça. Donc déjà, c'est un peu jouer perso, avoir une PAC, d'une certaine façon. On va se régler notre problème, du moins provisoirement, mais on risque d'aggraver le problème des voisins. Donc c'est une première chose. Deuxième chose, la pompe à chaleur, il y a un frigorigène dedans, un fluide spécial qui sert à faire ce transfert. La plupart des fluides frigorigènes qu'on sait utiliser aujourd'hui sont des très gros émetteurs de gaz à effet de serre. Pour prendre un exemple d'un fluide très connu, ils ont des codes avec des R. Le R134A, par exemple, je crois que c'est 2300 le pouvoir de réchauffement global, c'est-à-dire que 1 gramme qui s'échappe de la machine, c'est 2,3 kg de CO2. C'est énorme. Bon, on arrive à faire des progrès encore là-dessus, mais ça reste quand même un fluide qui n'est pas très sympa avec le climat. Et quand on achète une PAC, quand même, on stimule ce marché d'une certaine façon. On le rend encore pérenne. Donc c'est une deuxième chose. Troisième chose, le risque d'effet rebond. Si vous avez une PAC, une pompe à chaleur qui fait du froid, ben vous allez vous dire « Mais pourquoi je ne rafraîchirai pas mon logement tout l'été à 25 ?» Alors que le but du jeu premier, c'était de passer les pointes de température. Ben, grand confort, allez hop, on allume. Effet rebond, classique. Quoi d'autre ? La pompe à chaleur est un moteur, hein, c'est un compresseur. Vous savez, c'est pas magique, hein, c'est un compresseur qui va, avec un cycle de Carnot, qui va trimballer le fluide, le compresser, le détendre, etc. Un compresseur, c'est un moteur électrique. Un moteur électrique, quand il démarre, il a ce qu'on appelle un ampérage au démarrage qui est très fort. Il va tirer beaucoup, très fort sur le réseau pour démarrer, les premières secondes. Donc imaginez une multiplication de pompes à chaleur. Ben, ce qui se passe, et c'est déjà arrivé, c'est que les réseaux publics sont saturés par ces appels, et il y a des réseaux qui tombent. Qui se mettent en off parce qu'on est en surcharge. C'est arrivé, j'avais lu un article qui m'avait un peu interloqué, c'était à Londres, tout un quartier de Londres qui a été mis en blackout comme ça. Et Londres, c'est quand même pas la Côte d'Azur. Hein. Donc voilà, il y a ces effets-là aussi qui sont pervers. Donc effectivement, il y a quand même un vrai enjeu à réfléchir à se passer de ça et à travailler sur l'enveloppe essentiellement et sur les comportements. Voilà. Et j'en ai fini, et si vous avez des questions, elles sont bienvenues.
Bonjour, merci de votre intervention. Moi j'ai une question plus sur l'aspect étanchéité à l'air, vous n'avez pas spécialement parlé, parce que d'après moi, c'est bien de vouloir isoler, etc. Sauf si on a une passoire dans le sens qui laisse passer l'air, je pense que ça devrait jouer aussi un petit peu. Je ne sais pas si ça a été calculé, pas calculé, voilà.
Alors oui, ça fait partie des solutions qu'on a évaluées, c'est quel gain on a à être très étanche à l'air pour l'été. La réponse est, il est très mineur. C'est pas du tout le levier le plus important qu'on peut actionner. Ce sera plutôt pour l'hiver. Alors, ça ne veut pas dire que l'étanchéité à l'air n'est pas une bonne idée, parce que l'étanchéité à l'air, c'est une protection du bâtiment, en fait. Chaque fois que vous avez une fuite, vous avez un point de condensation en hiver, donc un risque de dégradation des isolants, des plaques, des parements, etc. Donc, c'est plus pour ça que je recommande, moi, l'étanchéité à l'air, c'est pour la pérennité du bâti. Mais pour l'été, effectivement, l'impact est assez mineur.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'infiltrométrie ?
Oula. Ça se fait. Alors, un bâtiment, il est testé avec ce qu'on appelle une porte soufflante. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'occasion de voir un test. Ça se passe comme ça. En fait, on va mettre la maison en surpression, en dépression, et on va calculer les fuites d'air. Ça marche comme ça. Donc effectivement, c'est tout ce qui va passer. On va bloquer tout ce qui est ventilation mécanique ou ventilation voulue. Hein, si vous avez une entrée d'air, par exemple, dans une fenêtre, on va la boucher. C'est pas ça qu'on veut tester. Ça, on sait qu'il y a un trou dedans déjà. Ce qu'on veut tester, c'est toutes les fuites qui sont pas voulues. Donc on va faire comme ça. Il y a tout un protocole qui est un peu long. Il y a des fois une à deux heures d'installation du test pour lancer ce test. Voilà. C'était, je ne sais pas si c'était la question exactement. Vous aviez d'autres...
C'est-à-dire très souvent sur le bâtiment ancien, il y a des fuites un peu de partout autour des portes, des fenêtres. Oui, oui. Et ça, y mettre des petits capteurs de température, même électroniques, qui coûtent 15 ou 20 euros, je veux dire, on peut les mettre à côté de ces parties où ça fuit, pour se rendre compte que c'est énorme. Hein,
oui, ça peut. Et puis vous allez le sentir aussi. Hein, dès que vous avez plus de 0,1 mètre seconde de déplacement d'air, on le sent en hiver. Vous allez sentir en fait un effet 3 de courant d'air. Donc même mettre la main, des fois, ça suffit largement à montrer que là, il y a un problème, effectivement. Ouais. Ouais.
Par rapport aux pompes à chaleur, vous pensez que ce n'est pas une solution pertinente pour le... Enfin, parce que moi, ça me semble... efficace quand même déjà. Alors, pour chauffage.
Je ne préjuge pas de l'efficacité. Effectivement, on fait des matériels qui sont très efficaces. Ce que j'ai dit simplement, c'est que c'est un doigt dans l'engrenage, quoi. Alors après, la vraie question, en fait, c'est suivant tout ce que je vous ai cité, les fameux 5 commandements, où est-ce qu'on a le plus de risques que ça capote dans les années qui viennent? Et la réponse, en fait, c'est la température nocturne. Pour avoir une ventilation nocturne satisfaisante, il faut un delta de température entre intérieur et extérieur. Donc tant qu'on a des nuits fraîches, ça marche bien. Quand on commence à avoir ce qu'on appelle des nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits qui ne descendent jamais en dessous de 20 degrés, et ça commence à être le cas de plus en plus souvent, ce moteur, il s'effondre en fait. Donc notre vraie problématique, je pense, moi, c'est cette fameuse température nocturne, et d'autant plus en ville, puisque les îlots de chaleur urbains vont un peu exacerber tout ça, et que moi j'avais lu, ça m'avait estomaqué en 2022-2023, je crois que c'est 2022, en Corse, ils ont eu des nuits à 30 degrés. Vous imaginez 30 degrés la nuit ? Vous vous êtes battu toute la journée pour que la maison reste à peu près à 27, et il fait encore 30 dehors. Pas possible de ventiler. Donc oui, c'est un vrai problème ça par contre, effectivement. Alors, quelles sont les solutions? Moi, je ne suis pas des solutions miracles, mais il y a un certain nombre de choses qui me plaisent bien, et notamment le fait de se dire peut-être qu'on va beaucoup travailler sur une grosse inertie pour avoir du tampon, en fait, et peut-être revenir à des maisons semi-enterrées, par exemple, des choses comme ça. Peut-être aussi organiser sa maison pour qu'il y ait des pièces d'été, des pièces d'hiver. La chambre d'été sera peut-être très enterrée, pour qu'on ait vraiment des espaces réservés à l'activité estivale, des choses comme ça. Il y a une vraie réflexion à trouver. On peut aussi s'inspirer beaucoup des pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, hein, qui connaissent déjà ces problématiques-là, et qui ont eu des réponses culturelles sur le bâtiment, qui peuvent servir chez nous. Hein. Je pense qu'il y a une remise en question de la façon de construire aussi. Oui, une question devant, là, oui. Deuxième question.
Oui, c'était pour parler peut-être des matériaux, aborder peut-être les questions de quel type d'isolant mettre.
La fameuse question du déphasage, peut-être, ouais, voilà, que j'ai volontairement d'ailleurs pas mis dans mon présentation. Alors oui, effectivement, on peut se dire, les isolants, il y en a plein. Est-ce que, par exemple, les isolants biosourcés, dont on parle beaucoup, notamment sur ces salons, est-ce qu'ils vont vraiment faire la différence en été? Alors, je vais en décevoir certainement un grand nombre, mais la réponse est pas vraiment. Pourquoi? On parle de déphasage. C'est quoi le déphasage, en fait? C'est de dire, j'ai fait une paroi avec un isolant particulier, et cet isolant va... Alors, on devrait parler d'ailleurs de déphasage et d'amortissement. Déphasage, ça veut dire qu'on va décaler la pointe de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça va, si, mettons, il fait très chaud, souvent c'est les fins d'après-midi, en été, mettons, 17h. Allez. Déphasage, ça peut vouloir dire éventuellement que la pointe de température intérieure serait peut-être 6 heures plus tard, 23 heures, mettons. Ça, c'est le déphasage. L'amortissement, c'est la pointe, elle est à 38 degrés à l'extérieur, mais elle sera qu'à peut-être à 28 à l'intérieur. Ça, c'est l'amortissement. Alors ça, effectivement, de ce point de vue-là, si on envisage une paroi donnée, tous les isolants ne se valent pas. Et effectivement, les isolants biosourcés qui ont souvent plus de masse, hein, on parle de masse volumique, hein, de kilos par mètre cube, une laine de bois, par exemple, c'est 50 kilos du mètre cube, alors qu'une laine minérale, c'est 15 kilos du mètre cube, un truc comme ça. Donc là, effectivement, on peut montrer assez facilement que le déphasage existe bien. Vous avez des outils tout à fait libres d'accès. Moi, je peux vous recommander, par exemple, Ubacus, U-B-A-K-U-S. C'est un site allemand qui est gratuit pour les particuliers. Vous pouvez tester vos propres parois. Comme ça, vous montez votre mur et vous regardez comment il se comporte, quel déphasage, quel amortissement, etc. Donc oui, effectivement, il y a un phénomène qui paraît intéressant pour le confort d'été. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que je vous ai fait un peu ce défilé de tout ce qu'on regarde, il ne faut pas oublier que c'est un flux parmi d'autres. Il y en a plein d'autres dans le bâtiment. La question, c'est quelle est sa prépondérance dans l'ensemble des flux. Eh bien, en fait, quand on regarde bien, les flux déphasables, il n'y en a pas beaucoup dans la maison. C'est essentiellement les murs et la toiture. Les autres flux ne sont pas déphasables. Donc, si vous déphasez ces deux flux, mais qui sont minoritaires par rapport aux autres, en fait, l'impact, il va être vraiment mineur. Et ça se montre très très bien en simulation thermique. Le grand classique, je l'ai encore fait il n'y a pas longtemps en formation, c'est une petite maison qui a une laine de verre en état des lieux, on va dire, dans les combles, et qu'on remplace par une ouate de cellulose qui a la même résistance thermique. On pourrait se dire, la ouate de cellulose est à peu près 4 fois plus lourde, ça va changer les choses. Pas du tout. La courbe est quasiment la même, la courbe de température. Donc on ne se bat pas là-dessus, nous, si vous voulez, sur le déphasage. On va plutôt se battre sur le fait d'améliorer le grand R et le grand C dont je vous ai parlé, l'inertie globale. Ça, c'est pour nous plus important. Et on le voit bien, les simulations le montrent bien d'ailleurs. Alors, c'est pas faux, non, c'est pas une mauvaise idée de prendre des biosourcés pour plein d'autres raisons, hein, un impact environnemental, mise en œuvre, etc. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles, en tout cas, si vraiment ce qui vous motive, c'est le déphasage, vous serez déçus. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Il y avait une question devant aussi, oui.
Alors, moi, la question, oui. C'était par rapport à l'inertie massique, vous parliez, oui. Donc utiliser par exemple le carrelage ou des murs en béton. Par exemple, chez moi, j'ai isolé mon sol avec des sols plastiques par-dessus le carrelage parce que l'hiver, c'est plus confort.
Ouais.
Donc, faut enlever l'hiver, l'été, faut l'enlever, le remettre l'hiver. Enfin, je veux dire, comment on peut, voilà.
Pourquoi pas, hein. On mettait des tapis pour ça. D'ailleurs, on pouvait éventuellement rouler les tapis en fin d'hiver pour les enlever. Alors après, c'est une question d'épaisseur aussi. Si le sol il est vraiment mince, il fait 1 ou 2 mm, ça va ralentir un petit peu, mais c'est pas non plus comme si tu mettais 45 mm d'isolant, quoi. Tout est mesure après, mais ça se mesure tout ça. Hein.
Je veux dire, l'été, par exemple, c'est contre-productif le fait que j'ai
un
isolant sur mon carrelage, par exemple.
Alors un petit peu pour deux raisons. D'abord, ça va effectivement freiner un petit peu, dans une certaine mesure, le stockage, le transfert des calories dans la masse. Et le deuxième aussi, c'est ce qu'on appelle l'effusivité thermique. L'effusivité thermique, en fait, c'est le ressenti d'avoir froid quand on pose un pied sur un carrelage. Ça ne veut pas dire qu'il est mal isolé, mais ça veut dire que le carrelage va absorber votre chaleur corporelle beaucoup plus vite. Et ça peut être un sentiment très agréable. Vous regardez en Afrique du Nord, il y a beaucoup, toutes les salles de bain où les trucs sont faits en faïence. C'est pas pour rien, hein, c'est la faïence, c'est un élément froid. Alors que si vous allez en Suède, vous avez des salles de bain avec du bois. Parce que la recherche de confort n'est pas du tout la même. Donc là, c'est plus du ressenti après.
Une autre question, si je peux me permettre, c'est par rapport au double flux. Est-ce que ça fonctionne dans toutes les maisons ou s'il faut avoir une maison passive pour pouvoir installer une double flux, par exemple ?
Alors la double flux, elle n'apportera pas énormément en été. Ça, vous pourrez le voir aussi dans le livre. On a fait des simulations. Elle est plutôt plus pour la performance d'hiver, pour la qualité d'air, etc. Et les contraintes d'une double flux, elles sont multiples. Bon, il y a le coût, évidemment, c'est beaucoup plus coûteux qu'une simple flux. Il y a la place que ça prend, c'est deux réseaux, un soufflage, un extraction. Donc dans les rénovations, c'est pas toujours facile de le mettre en place. Et la mise en œuvre, bon, elle est un peu plus compliquée, mais c'est pas tellement ça. Mais c'est surtout ça, oui, effectivement. L'encombrement que ça prend dans le bâtiment et le coût. C'est ça le frein, généralement. Gavin. Question là-bas.
Oui, je reviens sur les nuits tropicales,
oui.
Sur les solutions éventuelles, sans faire appel à une pompe à chaleur, est-ce que le puits canadien pourrait être une solution ?
Alors, il peut être une partie de la solution, simplement, il y a deux choses à savoir, c'est que d'une part, la puissance d'un puits canadien n'est pas du tout celle d'une PAC, Un puits canadien, c'est quelques centaines de watts de puissance de froid, alors qu'une PAC, elle peut monter à plusieurs kilowatts. Donc ça reste une amélioration, on va dire, du confort de ce point de vue-là, mais c'est pas comparable. Et le petit talon d'Achille, on va dire, du puits canadien, c'est qu'avec les étés qu'on a, qui sont de plus en plus longs et de plus en plus chauds, comme le puits canadien prend généralement ses frigories, son froid dans le sol, il peut arriver qu'en fin d'été, le sol se sature. Puisqu'en fait, quand vous allez amener du frais dans la maison, à l'inverse, vous allez ramener du chaud dans la source, la source étant le sol. Donc si vous faites ça trop longtemps et s'il fait vraiment très chaud l'été, on peut imaginer qu'avec les années qui viennent, ce sera de moins en moins efficace, surtout en fin d'été. Voilà. Donc ça peut être une solution, mais c'est qu'une petite partie de la solution.
Et est-ce que ce réchauffement se produirait aussi avec une solution de pompage des calories du sol par géocooling ?
Bah, c'est la même chose, oui, bien sûr. C'est un échangeur, en fait. Vous allez amener du frais dans la maison, mais vous allez retirer de la maison du chaud que vous allez mettre dans le sol. C'est le même principe. Donc on a le même problème, en fait.
Il y a un volume de diffusion de ce chaud qui est, enfin, je dirais, un espace tampon qui est beaucoup plus grand avec le géocooling.
Oui, alors effectivement, si on est suffisamment profond, il faudra quand même beaucoup, beaucoup amener de calories pour saturer. Ce qui milite d'ailleurs pour faire des bâtiments, en premier lieu, très efficaces, justement, pour ne pas trop solliciter ces systèmes-là. Le but du jeu, c'est d'avoir des systèmes qui sont vraiment la cerise sur le gâteau, j'allais dire. Mais la philosophie première, c'est quand même d'avoir une enveloppe, on retravaille sur les R, le C, etc., d'avoir une enveloppe très efficace. Cette enveloppe très efficace, de toute façon, c'est un investissement sûr pour l'hiver et pour l'été. Donc c'est quand même la priorité pour nous.
Simplement, vous avez une idée de comparaison entre les volets roulants qu'on installe très souvent maintenant, soit en PVC, soit en aluminium, qui se situe à quelques centimètres des parois vitrées, en comparaison avec les volets à l'ancienne, en bois, les volets à battants, qui sont au moins un minimum à 20 centimètres des parois vitrées.
Alors, c'est une bonne question, mais en fait, moi, je ne me poserai pas tellement la question en ces termes-là. Pour moi, la grosse différence entre du volet roulant et du volet battant ou coulissant, un peu à la classique, on va dire, c'est la souplesse. C'est-à-dire qu'un volet roulant, quand vous commencez à le fermer, vous avez très vite une pièce qui va être dans la pénombre. C'est très difficile de gérer à la fois l'éclairement naturel et la protection solaire. Le gros avantage, je trouve, des volets battants coulissants, et spécifiquement d'ailleurs une solution qui marche très bien, que moi j'ai sur ma maison, c'est des volets persiennés. Les persiennes vous permettent à la fois de vous protéger des apports solaires et d'avoir de l'éclairement naturel. Moi, sur ma maison, je suis capable de fermer toutes les fenêtres du rez-de-chaussée, je ne suis pas dans le noir, je peux vivre dans ma maison en été avec une très grosse canicule. Donc c'est plutôt cet aspect-là, moi, qui me ferait opter plutôt pour des volets classiques.
Pour les combles, combles non aménagés, avec donc l'isolant sur le sol, est-ce qu'il vaudrait mieux le ventiler l'été ?
Alors oui. Oui, d'ailleurs, un comble doit être normalement ventilé. Vous avez des chatières, logiquement, qui font le boulot au niveau des tuiles. Il faut ventiler un comble, effectivement, parce que si on veut qu'il continue à être espace tampon, c'est toujours pareil. Lui, il va s'échauffer quand même considérablement en journée. Un comble peut monter à presque 60 degrés, hein, parfois. Donc, il faut bien le refroidir la nuit pour recommencer le lendemain. Donc, il faut un comble qui soit ventilé, tout à fait. Ouais.
Mais dans la journée aussi
Il va être un petit peu ventilé, mais on pourrait imaginer un système où il faut fermer la ventilation en journée. Et puis, non, en fait, un comble, il est très très vite au-dessus de la température extérieure. Donc de toute façon, c'est un avantage aussi de le ventiler en journée. Quand il est à 50 degrés, il ne fait pas 50 dehors. Donc de toute façon, il faut laisser un comble ouvert. Il faut qu'il se ventile tout au long de l'année, en fait, que ce soit en journée, en nuit, pour qu'il joue son rôle vraiment d'espace tampon.
Donc, ils mettent un ventilateur, ça pourrait être utile en plus.
Ça serait une solution un peu techno, je trouve. Moi, je serais plutôt pour la ventilation naturelle du comble, franchement. Alors après, l'augmenter la nuit, pourquoi pas. Alors, on n'a pas testé ça, c'est vrai. On aurait pu regarder. Je pense que comme c'est un espace tampon, de toute façon, du moment que déjà vous êtes très bien isolé de ce comble par rapport à la maison, le plus gros est fait avec l'isolant. On gagnera un petit peu effectivement à avoir un espace tampon qui se ventile bien, qui se rafraîchit vite, mais le plus gros du travail à mon avis est plutôt sur l'isolant qui sépare les combles de la maison.
Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que les toitures végétalisées pourraient apporter un peu plus de confort, parce que les tuiles, elles prennent beaucoup de chaleur sitôt qu'il y a du soleil et elles l'emmagasinent une grande partie de la nuit, voire elles refroidissent très peu la nuit pour reprendre encore plus de chaleur le lendemain.
Alors c'est vrai, alors elles refroidissent très peu, pas pas si peu que ça quand même, parce que c'est pas des grosses épaisseurs, et puis si vous avez une nuit bien dégagée, ça devrait faire le boulot. Après, en matière de toiture végétalisée, effectivement, ça peut être séduisant de penser à ça. La problématique, en fait, elle est liée au choix qui est fait du type de végétalisation. Généralement, on fait ce qu'on appelle des végétalisations extensives. Extensives, ça veut dire des substrats qui font une dizaine de centimètres d'épaisseur. Pourquoi ? Parce que la problématique, c'est le poids de la terre. Si vous voulez une vraie végétalisation, c'est 50, 60, 80 centimètres de terre. Et le poids est énorme. Donc ça veut dire concevoir un bâtiment avec des structures qui permettent de le soutenir, donc plus de béton, donc l'un dans l'autre, si on fait un bilan global, pas sûr qu'on s'en sorte aussi bien. Mais alors la problématique des végétalisations extensives, c'est que pour un été qui est relativement chaud, elles vont très vite être sèches. Et dès que le sol, dès que le substrat est sec, en fait, finalement, ça joue plus beaucoup. Ça va jouer les premiers temps, quand le substrat sera encore un peu humide, ou s'il pleut régulièrement, comme cette année, on a une année vraiment spéciale, hein, quand même, 2024, beaucoup de pluie. Donc là, oui, on peut arriver à avoir des gains, mais le gain reste à la marge, malheureusement, parce qu'on n'a pas assez de masse, on n'a pas assez de terre pour que ce soit vraiment efficace, quoi. Mais j'aime beaucoup, hein, j'aurais bien aimé en faire une sur la mienne. Prochain projet.
Par rapport à la ventilation naturelle enfin la nuit, vous avez dit que c'était pas utile de mettre un ventilateur pour améliorer, enfin, parce que chez moi c'est un duplex, une partie sous comble, une partie en dessous, et pendant la canicule là cet été, bah, on a eu beaucoup de mal à rafraîchir l'intérieur, il faisait encore 25 degrés le matin.
Alors le problème venait sans doute, alors si vous avez bien ouvert vos fenêtres, à mon avis ça venait peut-être du fait que la nuit était restée assez chaude. Donc là, plus la différence de température est faible, plus le moteur est affaibli. Après, mettre un ventilo sur un petit volume d'appartement, peut-être que ça peut apporter. En fait, on raisonne en termes de volume par heure. Donc si vous avez, je dis n'importe quoi, je prends un exemple, vous avez 100 mètres carrés de logement, ça fait 250 mètres cubes à peu près. 2,50 mètres sous plafond, 2,5 fois 100 égale 250. Nous on montre qu'en simulation la ventilation naturelle est efficace à partir de 4 à 5 volumes par heure. Donc dans cet exemple là ce serait du 1000 m3 avec une ventilation mécanique. Déjà vous dormez pas parce qu'au niveau acoustique c'est pas terrible, mais de toute façon il n'existe pas de machine assez puissante pour ça. Il y a vraiment que la ventilation naturelle qui peut permettre de faire ça, déjà pour des raisons d'acoustique. Alors on pourrait se dire que dans des bureaux, effectivement, des bâtiments qui sont inoccupés la nuit, on pourrait imaginer de surdimensionner la ventilation mécanique pour aider à ce transfert de calories. Pourquoi pas ? Mais en logement, c'est pas possible. Pour des raisons de taille de machine, pour des raisons d'acoustique et de pouvoir dormir la nuit, quand même, au minimum, c'est pas envisageable, quoi.
Okay, donc mon petit ventilateur, il sert strictement à rien.
Bah ouais, un petit ventilo, il a quand même pas beaucoup, hein. Il a peut-être 50 mètres cubeurs ou 100 mètres cubeurs, quoi. Donc ça peut participer, mais faut pas en attendre des miracles, quoi.
Et je voulais aussi poser la question des moustiquaires à la fenêtre. Ça va beaucoup gêner ou...
Ah, bonne question. Alors oui, ça peut ralentir le flux d'air, effectivement. Moi, je déconseille d'en mettre. Alors, je suis très old school. J'envisage, et je fais chez moi d'ailleurs, et je conseille de mettre plutôt des moustiquaires de lit, sur les lits. Donc là, vous gardez votre fenêtre grande ouverte, sans ralentissement du flux d'air, et vous mettez la bonne vieille moustiquaire coloniale, si j'ose dire, sur votre lit, et ça marche très bien.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'humidité qui jouait dans le confort. J'aurais bien aimé avoir votre avis sur les grilles hygro-réglables qu'on met sur les fenêtres.
La ventilation hygro-réglable. Alors, j'avais insisté sur le fait que le facteur humidité, en termes de sur le confort en tout cas, n'était pas prépondérant dans nos contrées. C'est plutôt sur les milieux tropicaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps, il a une fonction très particulière pour se rafraîchir, c'est la sudation. On va suer. Notre corps va suer, en fait, va émettre donc de la sueur. Et le principe, c'est les gouttes de sueur viennent sur la peau et les petits mouvements d'air ambiants vont faire vaporiser les petites gouttes. Et quand l'eau se vaporise, elle prend des calories à la peau, donc elle vous rafraîchit. Le problème, c'est que dans les milieux tropicaux, l'air, il est déjà saturé en humidité, il est quasiment à 100%. Et donc là, le moteur de sudation, il est mort, quoi. Et c'est toute la difficulté pour ceux qui ont connu les milieux tropicaux. On a l'impression d'être dans un four en permanence, mais parce qu'en fait, la sudation ne fonctionne plus. Mais il faut vraiment des atmosphères à 80-90% d'humidité. Hein. C'est la Guyane, ça n'arrive pas chez nous, en fait. Donc la problématique des grilles d'entrée d'air hygro-réglables n'en est pas une de ce point de vue-là, en tout cas.
Il n'y a pas de souci. C'est peu intéressant, du coup.
Pardon ?
C'est peu intéressant d'en installer.
Ça n'apportera rien sur ce point-là. On va installer des entrées d'air hygro-réglables si vous avez une VMC hygro-réglable. Simplement, ça va réguler le débit de la ventilation. Mais comme la ventilation mécanique, on l'a dit, n'est pas du tout efficace pour l'été, de toute façon, ça ne rentre pas dans l'équation, on va dire.
Petite question sur le photovoltaïque, paroi noire qui vient réchauffer la toiture. Est-ce que ça, vous avez vu des changements ou pas? Enfin, ça, est-ce que ça augmente la température intérieure?
J'ai pas vraiment de retour là-dessus. Nous, ce qu'on regarde plutôt, en fait, quand on installe du photovoltaïque, c'est que le dos du panneau soit pas trop chaud. Mais c'est une question de rendement, en fait. Un panneau qui est trop chaud chute en rendement de production de photovoltaïque. Après, généralement, s'il est bien ventilé derrière, il n'y a aucun souci, quoi. Et puis, encore une fois, la barrière, c'est pas tellement ça. Ça va être l'isolant des combles ou l'isolant du rampant qui va vous protéger. Donc, je pense pas que ce soit vraiment prépondérant. C'est plus, moi, je m'inquiéterais plus pour le rendement, en fait, de production du panneau, quoi.
Merci, Jean-Luc.
Eh ben
pour aller plus loin et pour approfondir le sujet, vous avez son livre ici.
Merci à vous.